Bonsoir et bienvenue à la tribune de la presse de ce vendredi 4 novembre 2011. Trois thèmes sont au menu de notre débat de ce soir, à savoir affichage des listes des électeurs dans les bureaux de vote, publication de la cartographie des bureaux et arrivée du premier lot des urnes, annonce faite par la CENI en début de semaine. Dans notre deuxième thème de ce soir, nous parlerons de la problématique de la démission des mandataires, fonctionnaires et autres autorités politico-administratives qui sont candidats aux législatives. Sécurisation des élections, c'est notre dernier thème. Un comité national pour la sécurisation des élections déjà mis au pied, mais pendant ce temps, on a déjà enregistré deux cas d'attaque de convoi des candidats à députés à Rutshuru, au Nord Kivu et en Ituri, dans la province orientale. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Luc Mikomo, journaliste à Congo Web Télévision, une télévision privée qui émet depuis Kinshasa. Bonsoir Luc.
Bonsoir.
Israël Moutala, journaliste à Géopolis, un magazine économique des activités extractives. Bonsoir Israël.
Bonsoir.
Et Trésor Mouindo Makunia, qui est journaliste à la radio Mitumba, une radio locale qui émet depuis Uvira au sud Kivu, et correspondant du journal d'enquête et de reportage Sissi à Grand Lac. Bonsoir Trésor.
Bonsoir Kenny.
Merci de nous suivre à Uvira au sud Kivu sur la 103.5. Et pour vous qui êtes à l'étranger, rejoignez-nous sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Comme d'habitude, avant de commencer notre débat de ce soir, jetons un coup d'œil dans les colonnes des journaux chinois pour voir comment la presse écrite a analysé les sujets que nous avons retenus pour vous ce soir. La revue de presse avec vous, Samuel Kachak.
Bonsoir. Élection 2011, la CENI a publié la cartographie des bureaux de vote, rapporte la prospérité. Par cet acte, constate la consoeur, la CENI est en passe de vider l'un après l'autre les préalables de la classe politique sur la tenue des élections du 28 novembre prochain. Pour l'avenir, malgré l'affichage de la liste des électeurs, la publication de la cartographie des bureaux de vote et l'arrivée des urnes, la CENI reste encore confrontée aux problèmes récurrents des moyens financiers supplémentaires. Cet argent servira, selon le quotidien, à déployer le matériel électoral dans près de 64 000 bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire national. Dans le même registre, l'avenir signale que la CENI demande aux ministres, gouverneurs et à tout mandataire actif de jeter l'éponge. La crainte est que ces mandataires n'utilisent les biens et les finances publiques pour leur campagne, croit savoir ce journal. Concernant la sécurisation du processus électoral en RDC, un comité pour sécuriser les élections a été mis en place, rapporte RadioCapi.net. Sa mission principale est d'évaluer les menaces qui pèsent sur le processus électoral au Congo en vue d'y apporter des solutions. Selon cette source, à la tête de cette structure figure le commissaire général de la police nationale congolaise, le général Charles Bissengiman. Autre sujet abordé cette semaine, le potentiel et l'observateur de leur côté font état de la publication par le ministère du plan du document stratégique de croissance et de réduction de la pauvreté de deuxième génération DCRP2 en sigle. Selon ces journaux, ce document vise notamment à réduire la pauvreté de 60% et à créer au moins 1 million d'emplois décents par an d'ici 2015. L'avenir rapporte que l'ONG Human Rights Watch demande l'arrestation du candidat Thabo Ntaberi alias Cheka, chef de la milice Mai Mai. Selon le confrère, le candidat est poursuivi sous mandat d'arrêt émis par les autorités congolaises depuis janvier 2011. Il est présumé responsable de la mort de 387 civils en juillet et en août 2010 et des viols massifs dans le territoire de Walikale dans l'est de la RDC. Enfin, parmi les autres sujets ayant fait l'actualité cette semaine, figure le début de la grève à l'université de Kinshasa et la publication du rapport du PNUD sur l'indice du développement où la RDC occupe la dernière place.
Merci Samuel Kachak pour cette revue des presses. Luc Mikomo Kabonga, vous êtes directeur de l'information à Congo Web Télévision, éditeur-directeur général du Nouveau Regard. C'est un journal parisien à Kinshasa. Un mot sur cette revue de presse que nous venons de suivre. L'actualité dominée par la campagne électorale.
Bien sûr, je constate que en ce qui concerne la campagne électorale, tout le monde est un tout petit peu inquiet. Je voudrais dire là-dessus que la presse doit jouer un rôle important parce que j'ai comme l'impression que les confrères sont en train de suivre j'allais dire servilement, les politiques sur leur voie. Les politiques, ils ont leurs agendas, ils ont leurs calculs, qui ne vont pas toujours avec l'intérêt commun. Il faudrait que les journalistes se démarquent quand les politiques tiennent un discours belliqueux, on doit les interpeller et les inviter à tenir des discours, j'allais dire, fédérateurs, qu'ils puissent se concentrer sur leur projet des sociétés, qui nous disent qu'est-ce qu'ils entendent faire pour notre pays qui est en retard par rapport
à plusieurs autres. Et ce n'est pas ça que vous constatez, vous, Luc Nkomo?
Moi, je trouve que le ton que prend la campagne électorale est plutôt inquiétant. En plus, la situation dans nos universités, on en a parlé aussi. Et je pense que les présidents de la République doivent finalement intervenir, franchement. Parce qu'à gauche, à droite, notamment à l'université de Kinshasa, le syndicat des enseignants, des professeurs... ne va pas par quatre chemins pour dire que le grand problème, c'est les ministres qui en charge l'issue. Et donc, il faudrait, puisque la situation dure, ils avaient donné un préavis des grèves, rien n'a été fait, mais je crois qu'il est grand temps que les présidents de la République, garants de la nation, garants de la sécurité, puissent du coup intervenir et mettre un terme à cette situation.
Merci Luc. Israël Moutala, vous êtes journaliste à Géopolis, c'est un magazine économique des activités extractives, il y a beaucoup de sujets d'actualité, on a l'impression que la campagne électorale étouffe un peu tous ces autres sujets.
Oui, actualité oblige, parce que la campagne électorale, c'est quelque chose de très important. Elle va déterminer en principe le choix de nos politiques publiques, des questions de développement, des questions de pauvreté pour les 5 prochaines années. Donc c'est une période cruciale où les électeurs doivent se faire une opinion. Mais parlant de cette actualité, moi j'aimerais quand même m'écarter un peu du sujet parce que nous allons y revenir de toute façon dans l'émission. C'est de voir que avec la revue de presse ici, je m'attarde un peu sur le DSRP, un très bon document de nouvelle génération qu'a fait le ministre Kamitatou. Mais je remarque ici par exemple que le Kassaï oriental n'a pas produit le sien. Donc, c'est vraiment regrettable. Je remarque aussi que sur l'indice du développement humain, IDH, nous occupons la dernière place. Donc, quand on se dit que ce pays ne tourne pas rond, c'est vrai. Il ne suffit pas, justement, de se voiler la face. Le pays ne tourne pas rond. Donc, il y a beaucoup d'efforts à faire. Pour revenir encore à ce que Luc a dit ici, sur la grève à l'UNIKIL, c'est la énième grève de l'université de Kinshasa. Bon, moi, quand même, ça m'étonne que, quand même, ce haut lieu du savoir, où il y a des sommités intellectuels qui ne puissent pas avoir la solution à leurs problèmes. Moi, ça m'étonne qu'ils soient souvent, menés en bateau par le gouvernement ou par qui que ce soit. Je pense qu'il est grand temps qu'ils mettent le gouvernement devant ses responsabilités, mais en cette période, les gouvernements, les mandataires publics,
tout le monde
est absent des responsabilités publiques, ce qui est encore dommage. Tout le monde se préoccupe à assurer justement son avenir politique et c'est bien dommage.
Merci Israël. Trésor Mwindo Makunia, vous êtes journaliste chargé d'enquête et des magazines à la radio Mitumba, une radio locale qui émet depuis Uvira au sud Kivu, et vous êtes aussi correspondant du journal d'enquête et des reportages Sixia Grand Lac. Qu'est-ce qui fait l'actualité aujourd'hui à Uvira dans la province du sud Kivu?
En fait, Kelly Ovira vivre depuis une semaine au rythme de la campagne électorale des élections du 28 novembre prochain. Dans tous les coins, la nuit comme la journée, ce sont les mégaphones qui portent tout haut les voix de ceux qui demandent aux Ovirois de voter pour tel ou tel autre candidat. Mais aussi, des effigies de certains candidats sont visibles à des places les plus fréquentées. Ils sont au fait ici chez Boussa 25, ceux qui veulent représenter la population d'Ouvira au Palais du Peuple à Kinshasa, mais les électeurs n'auront à choisir que 5 d'entre ces 25. Ces deux derniers jours ont été au fait caractérisés par l'arrivée à Ouvira des candidats vivants soit à Kinshasa, soit à Lubumbashi, soit à Bukavu, et les radios locales sont au fait prêtes. Deux radios locales ont offert des espaces libres aux candidats qui voudraient bien venir présenter leur programme, projet de société à la population, de bien venir présenter. Ils sont dans ce sont des espaces vraiment non payants. Il habitants, là, ils sont les bienvenus.
Merci Trésor Mouindo, premier thème de ce soir. La CENI a débuté lundi soir à Kinshasa, l'affichage des listes des bureaux de vote. Le président de la Commission électorale nationale indépendante reconnaît le retard pris dans la publication de cette liste. Pour Ngoï Moulunda, il a fallu attendre la fin de la mission de repérage des bureaux de vote pour le faire. Le président de la CENI affirme que le nombre de bureaux est revu aujourd'hui à la hausse pour permettre aux électeurs très éloignés de voter plus facilement. Précision de Ngoï Moulunda au micro d'Askenzik Biata Euro.
Au moins, je vous parle, deux avions atterrissent à Kinshasa, 747 en provenance de la Chine, avec plus de 50 tonnes d'urnes. Il y a trois jours, les urnes sont arrivées à Lubumbashi, donc les urnes commencent à arriver. Les électeurs doivent être assurés que les élections auront bel et bien lieu, parce que ça aurait été le frein au processus si on n'aurait pas d'urnes. Nous nous disons que nous devons mettre fin au déploiement le 25 novembre. Chaque bureau de vote doit avoir tout son matériel, excepté selon la loi, les bulletins de vote qui seront déployés 48 heures avant le vote. On ne posera pas les bulletins avant, ce sont des documents sensibles. La loi nous demande de les déployer 48 heures avant le vote.
Vous avez dit que l'impression de ce bulletin de vote va intervenir, sauf imprévu, le 10 novembre, presque à 18 jours de la date précise du début des élections présidentielles et puis législatives. Ça sera possible?
On a déjà commencé à imprimer pour les présidentielles, l'impression est en cours. Demain, je pars pour signer l'impression des législatives. On doit arrêter au plus tard le 10 et le déploiement se fera progressivement. Une fois qu'on a un lot et on déploie selon les endroits. Maintenant, on est en train de déployer pour les zones les plus éloignées, les zones les plus difficiles, afin de permettre à la MONUSCO et aux gens qui déploient de les déployer à temps. Donc, on est en train de déployer progressivement. On n'attendra pas la fin.
63 865 bureaux de vote, c'est le nombre précis de bureaux de vote qui a été revu à la hausse après la mission de repérage effectuée par la CENI. Daniel Ngoï Moulunda a aussi dévoilé la nouvelle cartographie des bureaux de vote telle qu'elle se présente actuellement à travers tout le pays. Israël Moutala, comment vous analysez cette annonce faite par la CENI? Est-ce que ça peut rassurer la classe politique et même la population congolaise?
Rassurer, je ne crois pas, mais je pense que ces élections, on ne le dira jamais assez, sont organisées au pas de course. Et ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. On avait 5 ans pour préparer des élections apaisées, des élections crédibles, des élections dans le sens où il n'y a pas précipitation. Là, je vois Ngoï Moulunda, malheureusement, ce n'est pas de sa faute, c'est de la faute au gouvernement sortant.
Il n'avait pas encore tous les moyens.
Bien sûr, il faut que les responsabilités soient vite établies. La faute n'est pas celle de Ngoï Moulunda. Et son bureau, ils ont été installés longtemps en retard. Les moyens financiers ne suivaient pas. La logistique n'était pas à la hauteur des attentes de ce grand pays. Donc là, nous avons quelqu'un qui court après le temps pour éviter une crise institutionnelle, une crise de légitimité. Mais enfin, nous sommes dans quel pays? L'affichage de listes électorales, par exemple, mais elle s'est faite aussi. Il s'est fait cet affichage en violation de la loi, parce que la loi prévoit que cet affichage soit effectué 30 jours avant les élections. Donc vous partez du 28, vous faites vous reculer de 30 jours, et ça a été affiché bien plus, ça veut dire en retard. C'est-à-dire pourquoi on permettait ces affichages? C'est pour que les gens qui ont il y a des erreurs et tout ça, ils se déplacent, ils voient que l'heure n'en est pas là, ils font leur réclamation. C'était dans ce sens-là. C'était
alors pour le pasteur, il fallait d'abord repérer les bureaux de vote à travers les pays avant d'afficher les listes des électeurs.
Le travail de repérage, par exemple, c'est un travail aussi qui devait être fait bien longtemps avant. Le travail de repérage ne devait pas se faire il y a 6 mois ou à 3 mois des élections. Donc, nous avons un calendrier très ténu, très serré. Nous avons des échéances qui se rapprochent. Mais tout ça, pour moi, c'est vrai. Il y a maintenant les urnes qui sont venues avec des rotations des deux Boeing 747. C'est ce qui implique qu'il y a eu des coûts plus élevés, parce que si on était mieux organisé avec les urnes déjà, on aurait peut-être affrété un bateau et ça aurait coûté moins cher. Donc là, on affrète des avions, ça fera beaucoup de rotations et c'est encore plus cher. On a rendu encore l'opération plus onéreuse. Tout ça, c'est vraiment la faute du gouvernement sortant, et que les responsabilités soient bien établies. Mais qu'à cela ne tienne, on aura des élections. Mais quelles élections, je ne sais pas, parce que j'attends encore de voir quand est-ce qu'arriveront les bulletins de vote, non seulement des candidats à la présidence de la République, mais aussi justement des candidats députés nationaux, étant donné que l'idée juste là du découplage n'a pas été retenue. Donc on aura des élections présidentielles et législatives au 28 novembre. Donc ça sera une opération très très délicate.
Alors Luc Nico, comment vous pensez aussi que cette annonce de la CENI ne rassure pas?
Bon, je commencerai par ce que je considère comme positif dans l'attitude de Ngoï Mulunda. D'abord, je constate que Ngoï Mulunda est quand même attentif à ce que les gens disent, les observateurs, les journalistes, les analystes, etc. Je constate que le nombre de bureaux de vote a été revu à la hausse, c'est positif. Je constate aussi que Ngoï veut à tout prix jouer à une certaine transparence et c'est une attitude, me semble-t-il, plus ou moins positive. Mais ce qui est négatif, c'est que Ngoï, en tant que pasteur, encore que nous n'avons pas besoin de son statut de pasteur dans cette affaire, il y met un peu trop de dose de sa foi qui, pour lui, me semble-t-il, serait capable de soulever les montagnes. Nous n'avons pas besoin de spectacles comme ça. La République démocratique du Congo a besoin des élections crédibles, mais également, comme on le dit, des élections apaisées. Et là-dessus, je rejoins Israël, le pasteur ne veut pas mettre chacun devant ses responsabilités. S'il trouve que les moyens mis à sa disposition ne vont pas lui permettre d'organiser des élections crédibles, mieux vaut, me semble-t-il, décaler un tout petit peu les élections, que l'on ait des élections qui fédère, qui met, j'allais dire, tout le monde d'accord. Mais là, le pasteur est en train de crier à corps et à cri qu'on aura les élections le 28, comme si ces élections n'avaient pas lieu
mais
le 28.
Mais c'est la CENI qui organise les élections. Elle dit, elle pense être sûre d'organiser ces élections le 28.
Dans cette matière, il faut faire usage, de la réalité sur le terrain et du bon sens. Tout le monde ne serait pas imbécile de croire que, vu le temps matériel dont la CENI dispose, il serait, Israël l'a dit en ce mot, il serait matériellement difficile d'organiser des élections crédibles avec le temps dont on dispose et vu l'immensité de l'étendue du territoire national.
Si il arrive à ce qu'on organise les élections le 28 novembre, elles ne seront pas crédibles.
Je souhaite bonne chance au pasteur et à toute son équipe. Ce qu'il y a à craindre, Kelly, c'est que si les avions ne tournent pas selon la logique de leur conception, il y aura crash et on va déplorer des morts. Ce crash, on ne le souhaite pas, bien sûr, risque d'entraîner avec lui une destruction d'une partie du matériel. Moi, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, mais il faudrait que l'on fasse les choses.
Mais c'est l'impression qu'on a, Luc Mikomo,
lentement,
on va parler.
Lentement, mais sûrement.
Merci Luc Mikomo, Trésor Mouindo. Dites-nous, est-ce que l'affichage des listes a commencé déjà ou verra?
En fait, l'affichage des listes n'a pas encore commencé ici dans le territoire d'Ouvira, donc en fait la circonscription électorale d'Ouvira. Il faut d'abord quand même commencer par louer les efforts fournis par les responsables de cette institution d'appel à la démocratie qui, malgré différentes contraintes d'ordre logistique, se mettent quand même au travail. Ils essaient de publier la liste définitive des électeurs, faire une cartographie des bureaux de vote qui seront en fait opérationnels le 28 novembre, mais aussi apporter les urnes à Kinshasa n'est pas tout. Ce n'est pas là, en fait, la fin ou la continue. Bon, si on peut le dire, ce n'est pas là la fin des opérations. Il y a tout, il y a beaucoup de choses qui restent encore à faire. C'est encore un pas. On peut dire que c'est les commencements, les débuts du commencement. Il reste encore le rapatriement, si on peut dire, qu'à amener encore les bulletins de vote à Kinshasa, les dispatcher sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, où il y aura des bureaux de vote. C'est un travail difficile, mais on peut le croire quand même avec l'aide de la MONUSCO. Les élections ne sont pas seulement ces urnes, cartographies, ces bulletins. Il faut que Ngoï Mulunda et son équipe fassent tout moyen possible pour que le bulletin de vote soit en République démocratique du Congo à temps. Nous sommes vendredi 6 novembre aujourd'hui, soit 22 jours avant ces scrutins. Les bulletins, tant du présidentiel que des législatives, ne sont pas encore au pays. Et vous le savez autant que moi, en RDC, où tout le monde voudrait être élu du peuple, même sans avoir la légitimité dans sa famille, les bulletins de vote ont toujours eu beaucoup de pages. Il y a des circonscriptions électorales où il y a à peu près 600 candidats, 500 candidats, 420. Il faut tout imprimer, ramener au pays, puis dans le bureau de vote, disséminer dans les provinces. Ça demande beaucoup d'efforts. Ce n'est pas automatique comme entrer dans Wikipédia via Google. En RDC, l'Internet est encore un luxe. Donc il faut que la CENI affiche avant le temps devant chaque bureau de vote la liste des électeurs qui sont affectés pour accomplir leurs devoirs civiques, espérant qu'ils ne pourront plus en fait commettre les erreurs qu'ils ont commises lors de la révision du fichier électoral lorsqu'une cité, c'est pas moins de quelques habitants, se voyait dotée de 5 centres, au même titre que dans des cités à forte agglomération, on voyait à ouvrir les gens se déplacer à 18 km, ne fût-ce que pour être rapidement enrôlés. Il faut se poser la question de savoir s'ils auront encore le courage de payer leur transport pour aller voter. Il faut également voir les personnels finis. Aujourd'hui, selon les informations à notre possession, à Bukavu, il y a une formation organisée à l'intention des formateurs provinciaux. Ces derniers auront également la charge de former les formateurs territoriaux. Les territoriaux aussi formeront à leur tour le personnel des bureaux de vote. C'est un long processus qui demande beaucoup de moyens, qui demande aussi de temps. On se pose la question de savoir est-ce que c'est la volonté d'organiser les élections qui a manqué le dirigeant de la CENI pour retarder, pour commencer toutes ces histoires le 22, à quelques jours des opérations des élections, en fait, du scrutin pays.
Et donc, selon vous, Trésor, la CENI est butée à plusieurs difficultés en ce moment?
Oui, la CENI est butée à plusieurs difficultés, des difficultés qui s'allongent tout au long de cette préparation. On peut dire, on peut affirmer, sous peine d'être contredit, qu'il y a eu une préparation au niveau de la CENI.
Alors Luc ne semble pas être d'accord avec vous, je veux lui passer la parole après Israël Moutala. Israël, l'affichage des listes des électeurs a commencé à Kinshasa, mais les électeurs ne vont pas voir leur nom sur les listes pour savoir dans quel bureau de vote ils doivent voter. C'est la CENI qui doit communiquer avec la population ou faire passer des messages à la télé et à la radio.
Effectivement, justement. Savent-ils justement que les listes sont publiées? Ils ne le savent pas. La communication laisse à désirer. Je pense que ces élections sur le plan de la communication, de la culture civique, de tout ça, de la formation civique des électeurs, sont catastrophiques. Aucune affiche pour montrer comment il faut voter. Ça sera un vote très compliqué pour les personnes âgées, pour les personnes qui n'ont pas l'expérience des activités électorales, pour ceux qui vont voter pour la première fois. Parce que ça fait depuis 2006, il y a beaucoup de... Tous ceux qui avaient 15 ans ou 14 ans vont voter. Donc toutes ces personnes n'ont jamais connu de vote. Mais on ne les a pas sensibilisés. Or, nous aurons des cahiers de parfois de 56 pages qui seront complexes. Il y a des partis qui ont des noms presque des homonymies. Ça, c'est compliqué. C'est très compliqué. Il y a des candidats qui ont des photos qui ne sont pas les leurs, mais qui ont leur numéro. Voilà. Il y a des noms qui sont écorchés. Il y a tout ça. Mais il fallait toute une campagne de sensibilisation. Donc là, je pense que la CENI devait communiquer pour dire, voilà, les listes sont affichées. Allez jeter un coup d'œil. Les partis politiques aussi, c'est leur travail. Ils devaient le faire. Moi, le problème, c'est le gouvernement. Le gouvernement doit être partisan. Le gouvernement est au-dessus de la mêlée en principe. C'est ça son rôle. C'est encadrer les gens. C'est diffuser l'information. Ce n'est pas faire de la RTNC un instrument de propagande pendant 5 ans. La RTNC devait se rendre utile pendant ces 5 ans en faisant de la sensibilisation civique. C'est le rôle des élections. Pourquoi les élections? Comment voter? C'était son rôle à lui. Il devait accompagner la CENI dans toutes ses tranches pendant ce temps si important. C'était ça. Mais c'est en retard que maintenant on essaie d'ouvrir l'espace médiatique, mais même dans cet espace médiatique c'est difficile parce que il y a tellement de messages que il est difficile de percevoir quelque chose de sensé en cette période.
Luc, mais comment réaction?
D'abord, je voulais réagir contre mon très cher confrère Trésor.
Bref, réaction.
Qui trouve que le manque des volontés est à imputer dans les chefs de la CENI. Que non, Trésor, c'est le gouvernement, comme le dit Israël tout à l'heure, c'est le gouvernement qui est l'organisateur de ces élections. C'est lui qui devait donner les moyens. C'est lui qui devait chercher ces moyens. Donc, s'il ne l'a pas fait, il doit pleinement assumer ses responsabilités. Quant aux affichages de listes, Kelly, moi je me dis, j'ai comme l'impression finalement que toute la classe politique congolaise n'y croyait vraiment pas. Et que, quelque part, elle a été prise de court et maintenant elle est en train de courir. Elle aurait mieux fait si elle avait écouté ce que Jean de La Fontaine nous dit, rien ne sert de courir, il faut partir à temps.
Problématique de la démission des mandataires, fonctionnaires et autres autorités politico-administratives qui sont candidats aux législatives, c'est notre deuxième thème de ce soir. La Commission électorale nationale indépendante les invite tout simplement à la démission pour raison de décence et d'éthique. Le vice-président de la CENI leur demande de copier l'exemple du maire de la ville de Matadi. Ce dernier n'a pas attendu d'être interpellé pour quitter ses fonctions et battre campagne sur le même pied d'égalité que ses adversaires, indique le professeur Jacques Ndjoli. On l'écoute au micro d'Innocent Olinga.
Au niveau de la loi, l'article 10 nous dit qu'il nous présente une lettre de demande de démission. Nous attirons l'attention des autorités politico-administratives. Nous aurions aimé, pour des raisons d'équité, qu'il démissionnât pour permettre l'égalité, ce qui leur impose quand même un certain devoir de réserve. Et nous les invitons à respecter les règles de l'équité et de l'éthique. Et par ailleurs, l'article 36 de la loi est clair. Il est interdit l'utilisation à des fins de propagande électorale de biens, des finances et du personnel de l'État, des établissements, organismes publics et des sociétés d'économie mixte. Si vous remarquez cette situation, toute personne peut saisir la Commission électorale nationale indépendante ou l'officier du ministère public au fait d'obtenir des poursuites pénales pour abus de biens publics.
Côté justice, le procureur général de la République précise, je cite, « aucune disposition légale prévue pour réprimer ceux qui se lancent dans la campagne électorale sans avoir démissionné de leur fonction politique ». Fin des citations. Flori Kabangé-Numbi affirme que l'action du ministère public ne peut être mise en mouvement que lorsqu'il y a des faits infractionnels pour lesquels la loi reconnaît la compétence du parti. Général. Or, indique-t-il, dans les cas des candidats à la députation nationale, encore mandataire de l'État, la loi est restée muette. Il renvoie la responsabilité à la CENI. Luc Mikomo, la CENI demande au ministre, au gouverneur et tout mandataire actif de jeter l'éponge. La crainte est que ces mandataires n'utilisent les biens et les finances publiques pour leur campagne, mais apparemment, personne ne veut démissionner, juste pour éthique et bon sens, comme le demande la CENI ou comme l'a fait le maire de Matadi.
Ben voilà, donc il n'y a plus rien à redire là-dessus. On ne devrait pas, en principe, engager un débat là-dessus. Ça va de soi. Et la République démocratique du Congo n'est pas le seul pays sur cette planète à connaître cette situation. J'ai entendu, surtout dans le chef des autorités politico-administratives, trouver des justifications. C'est vraiment de la distraction, ça. Comment voudriez-vous que l'on soit en même temps juge parti? Comment voudriez-vous que des élections soient crédibles lorsque les candidats ne sont pas mis sur un pied d'égalité? Comment voudriez-vous que les gens vous prennent au sérieux lorsque vous ne voulez pas respecter ce que vous avez vous-même fixé comme règle du jeu? C'est ce que je disais tout à l'heure. Ou on veut des élections crédibles, ou on veut une parodie d'élections. L'article 10 de la loi dit qu'ils doivent présenter leur démission.
Mais lorsqu'ils ne présentent pas leur démission, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Parce que le procureur dit que la loi est restée muette.
Oui, le procureur a raison. Parce que lui, il ne se réfère qu'aux textes qui sont mis à sa disposition, généralement votés par l'Assemblée nationale. Et il ne peut pas sortir de ces cadres-là. Là, il a raison, et j'ajoute en partie. Parce que le procureur général ne se réfère pas seulement à un seul texte. Les textes qui ont été considérés comme adoptés, et conçus et mis sur pied par la CENI font désormais partie de l'arsenal juridique de notre pays. Donc le procureur général devait aussi jeter un coup d'œil de ce côté-là.
Israël Moutala, on constate que la plupart des mandataires qui sont en campagne ou ministres autorités politico-administratives ne démissionnent pas. On pourrait dire que l'éthique et le bon sens, c'est pas l'apanage des politiques congolais.
André, tu as lu dans ma pensée là. Je suis parfaitement d'accord avec ce que Luc a dit ici. Nous sommes dans un pays... Écoutez, madame, pourquoi sommes-nous le dernier pays en termes de développement? Nous sommes l'indice de développement humain qui a été publié par plus, nous occupons la dernière place. Mais c'est pourquoi? Parce que nous avons une classe politique qui n'a pas de décence et d'éthique. Ça saute aux yeux. Les exemples sont légion. Et donc, nous sommes là, voilà. La loi est claire. Vous êtes mandataire. Vous devez démissionner. Il n'y a même pas de débat. Bon, on peut encore faire un débat entre mandataire actif et mandataire non actif. Bon, par mandataire actif, au moins ceux qui sont membres du comité de gestion, qui gèrent au jour le jour une entreprise ou un établissement public. Ceux-là sont en campagne et ne démissionnent pas. C'est regrettable. Mais j'aimerais revenir ici aussi sur le PGR. Le PGR a quand même aussi une vision restrictive de son rôle de PGR. Le plaisir, ce n'est pas seulement attendre qu'une loi soit assortie d'une sanction pour sanctionner, non. Dans le rôle du ministère public, c'est aussi le garant de la loi, faire en sorte que la loi soit respectée. Or, la loi électorale est une loi qui doit être respectée au même titre que toutes les autres lois pénales ou commerciales. La loi électorale est une loi et le PJ doit s'assurer que cette loi soit respectée. Quand il observe que certains mandataires n'ont pas démissionné, bien que cette démission n'est pas assortie d'une sanction, il doit faire observer en tant que garant du respect de la loi, faire observer par exemple à la CENI, voilà, telle loi n'a pas été respectée. Mais bon, nous sommes là dans un marché de dupes. Que ce soit le code de bonne conduite, c'est un marché de dupes. On l'a signé, on ne le respecte pas. Comme le témoigne les violences par-ci, par-là, comme le témoignent les affiches qui avaient été placardées ici. Tout ça renvoie à quoi? Renvoie à ce que les Congolais font toujours de lois qui ne savent pas respecter, qui ne savent pas appliquer. Mais sur cette loi, on peut quand même aussi redire une chose. Pour le maire de Matadi qui a démissionné, il est courageux, mais bon, moi je pense qu'on doit quand même évoluer là-dessus. Pour les gens qui exercent des fonctions vraiment politiques, comme les maires, les ministres, et voilà, le président de la République, je ne vois pas pourquoi ils démissionneraient eux. Kabila lui-même, si on considère notre loi, est le premier qui devait démissionner. Mais bon, ça créerait un vide, parce qu'il est la première personne quand même qui abuse de sa position de chef de l'État sortant pour battre campagne. C'est vrai que les Sarkozy, les Obama restent en fonction.
Mais la loi parle beaucoup plus des mandataires.
Oui, ça veut dire que Kabila a un mandat public. À un certain titre, il est mandataire de l'État. Kabila a un mandat public, c'est un mandataire de l'État. Au sens général, Kabila est un mandataire de l'État. Donc, au même titre que celui qui est dans une entreprise publique, il est aussi mandataire de l'État. Kabila et les ministres sont des mandataires. Même le maire de la ville sont des mandataires. Tous les gouverneurs sont des mandataires publics. Et donc, toutes ces personnes, en principe, maintenant, il faudrait qu'on fasse une différence entre le président de la République, qui est un mandataire public, les ministres, qui sont des mandataires publics, eux, qui peuvent garder leur... Mais qu'ils ne confondent pas, parce qu'on voit ici, par exemple, certains ministres, on voit même provinciaux et tout ça, ils utilisent les imprimantes, le papier de la ville, pour faire leurs affiches. Ils utilisent les voitures, tout ça. Il y a là-bas abus de biens sociaux. Mais qui peut vérifier ça? Qui peut sanctionner ça? Personne. Nous sommes dans un état faible et donc ces violations sont permises et sont au vu aussi de tout le monde.
Merci Israël. Trésor Mouindo, comment vous analysez cette situation des mandataires de l'État qui sont en même temps candidats et qui ne veulent pas démissionner?
Peut-être que lui demanderait au confrère d'avoir un peu de recul par rapport au mandataire public, mais aussi la seule à qui il possède des mandats politiques. Et à l'acharnement, après peut-être le PGR Flori Kabangé, lui, c'est un procureur général de la République. Je pense qu'il se base sur la loi et en vertu du principe de la légalité des délits et des peines, lui ne peut pas aller au contraire, ne peut pas aller à l'encontre de ce qui prévoit la loi. Peut-être il fallait s'acharner aux législateurs congolais. C'est lui qui a légiféré la loi électorale, même s'il l'a modifié encore. Pourquoi il n'a pas tenu compte de cela? Peut-être c'est à lui qu'il faudrait adresser nos insatisfactions au lieu de s'acharner au procureur qui, lui, ne s'est soumis au fait qu'à la loi, ce qui dispose la loi, ce qui dit la loi, et c'est tout. S'il y a une infraction, il n'y a pas de fait infractionnel, le procureur ne peut rien faire quant à cela. Il faut peut-être dire alors Kelly, les problèmes résident au niveau des sanctions. Les contrevenants, comment seront-ils punis? La loi électorale parle des radiations de la candidature ou d'annulation de la liste du parti politique ou d'un regroupement politique incriminé. Encore faut-il que la CENI ou l'officier du ministère public soit saisi pour arriver là-bas. Alors, les autorités politiques administratives, qui sont souvent leurs chefs, pourquoi ils ne saisissent pas la CENI ou l'OMP? Il faut attendre qu'un paisible citoyen fasse cela. On le voit partout, on le voit passer avec des engins de plaques SPA, services de transport administratif, où son colloque fait leurs effigies, drapeaux des partis politiques, et on incite impuissamment la scène d'autres. On a même du mal à faire appliquer les décisions qu'ils ont prises de peur qu'ils ne perdent leur électorat, ce qui crée alors une confusion totale. C'est disproportionnel et il y a même le risque que les subalternes ne soient contraints à battre la campagne pour les chefs, ne fût-ce que pour garder la force. Il faut peut-être préciser que c'est la loi qui organise et pour le fonctionnement des partis politiques en RDC qui qui dispose qu'aucun parti politique ne peut viser des biens ou des personnels de l'État sous peine de dissolution. Ceci n'a en tout cas pas de rapport avec ceci, mais il faut s'acharner en tout cas qu'il y aux législateurs congolais qui, en prévoyant cela, n'a pas prévu des sanctions pénales qui pourraient doter, qui pourraient armer les procureurs de la République près de l'instance, procureur général près de la cour d'appel, ou tout au moins le procureur général de la République, ils seraient armés et pourraient poursuivre tout le monde à ce niveau-là. Mais la loi, en fait, parle également du dépôt d'une lettre de démission. Le fait de déposer seulement une lettre de démission, déjà, il est quitte. Mais la lettre, la loi n'explique pas qu'il faut que la lettre soit répondue ou il faut qu'il y ait d'autres possibles. Non, la loi dit clairement justifier au jour, à la date limite du dépôt des candidatures, du dépôt de leur lettre de démission. Peut-être qu'il faut ici, vous avez fait une petite demeure, la ville de Massad, il faut aussi féliciter un médecin, un chef de zone, directeur des physiques, qui lui a aussi démissionné, il a laissé, il a voulu être en règle avec la loi pour combattre, pour être en ligne, pour s'éranger en ligne de part, pour présider le député national dans le cadre pour le compte de la circonscription électorale des Fizis.
Merci Trésor Mouindo. Il nous reste 5 minutes seulement pour mettre fin à cette émission. On va passer au troisième thème rapidement. Un comité national pour sécuriser les élections a vu les jours lundi dernier. C'était à l'issue d'une grande réunion tenue au siège de la police nationale congolaise à Kinshasa. Sa mission principale, évaluer les menaces qui pèsent sur les processus électoraux au Congo en vue d'y apporter des solutions. Ce comité est composé de tous les partenaires à la sécurisation des élections, notamment les FRDC, la police, les services des renseignements civils et militaires. La CENI et la MONUSCO à la tête de cette structure, le commissaire général de la police nationale congolaise, le général Charles Bisingimana. Au micro de Lievin Mwinga, il donne des précisions sur le rôle de la police dans la sécurisation des candidats et du processus électoral.
Les policiers sécurisent le processus électoral. Et sécuriser le processus électoral signifie que le policier va sécuriser la population qui va voter. Il va sécuriser les manifestations, il va sécuriser le matériel de la CENI avec son personnel et la population, le journaliste étranger, tout comme les journalistes locaux. Tout le monde et la population en général. Il a été demandé à la police de pouvoir mettre à la disposition de tous les candidats présidents 25 éléments de la police nationale congolaise pour leur sécurité. Eh bien, la police a pris toutes les dispositions. Il y a une unité de protection VIP au sein de la police et nous avons commencé à signer les ordres de mission pour les demandeurs. Aux éléments de la police, nous leur demandons de pouvoir être courtois, discipliné et au service de la population et au service des candidats et au service de tout le peuple et sécuriser le peuple correctement comme ils l'ont toujours fait. D'éviter de tomber dans les erreurs de la provocation de certains militants, de certains partis politiques.
Toutes les dispositions ont déjà été prises pour sécuriser le processus électoral et même les élections, propos du général Charles Bisingimana, commissaire général de la police nationale congolaise. Israël Moutala, que dire de la sécurisation du processus électoral?
Bon, pour la question de sécurisation du processus électoral, c'est difficile de m'avancer sur ce terrain. Je sais que nous aurons une sécurisation minimale, mais elle ne procède pas de l'essence de la politique, de l'essence de la police. Ça veut dire que la police en tant que telle n'est pas structurée pour procurer de la paix, n'est pas structurée pour pacifier. Que ce soit la police, que ce soit les FRDC, toutes ces structures sont des structures de l'État, mais en mentalité partisane. Ils ne se sont jamais des partis du pouvoir. Donc, c'est ça le problème. Il faut que toutes ces structures, à un moment, qu'il y ait une ligne de démarcation nette entre eux et le pouvoir en place. Mais ce cordon ombilical idéologique de caporalisation n'a jamais été rompu. Pour preuve, je vous donne l'exemple de quand il s'agissait de défenestrer Vital Kamerhe, alors qu'il était encore président en fonction. Mais tous les services de sécurité s'étaient retirés, sans un mot d'ordre, parce qu'une famille politique. Donc, il y a de liens incestueux entre ce service-là et un parti politique. Et c'est ce qui est dommage. Donc, il faudrait que nous arrivions à avoir une police républicaine, une armée républicaine, le service de renseignement républicain. Nous sommes loin de ce cas-là. Et donc, je ne me fais pas d'illusions sur la sécurisation des candidats de la République ni du processus électoral. S'ils le font, c'est parce qu'il y aura une forte pression internationale qui va les contraindre. Or, moi, j'aimerais que ça soit quoi? Elle-même, la police, qu'elle soit fière, justement, de traiter tous les Congolais sur un pied d'égalité parce que, les sachant égaux en droit et en obligation. Cette police, cette armée-là et ces services de sécurité ne seront pas encore nés.
Merci Israël Moutala, Luc Mikomo. Les dispositions sont déjà prises, mais entre-temps, on enregistre déjà des cas d'attaque des candidats députés, le cas du Nord Kivu et de l'Ituri. Comment on peut expliquer cette situation?
Bon, en fait, d'abord, je voudrais me prononcer très rapidement par rapport à l'attitude de la police en deux mots. Je constate, il faut être objectif, que quelque chose est en train de changer au sein de notre police. J'ai vu comment nos policiers étaient pris à partie par certains manifestants. Pendant un temps, ils ont gardé leur sang-froid, mais finalement, comme ils n'ont pas encore mûri dans cette nouvelle philosophie, ils ont dû lâcher du lest. Donc, ça commence à venir, ce petit changement, mais je pense qu'avec un renforcement des capacités, ça va s'installer et ça sera une bonne chose. Quant aux attaques des militants, des acteurs politiques ici et là, je crois que franchement, je fais une analyse de la psychologie de la campagne. C'est des cas, j'allais dire, un peu normal. Dans un contexte de campagne, dans un pays qui n'a pas beaucoup d'expérience, mais il ne faudrait pas qu'on tolère ça, c'est ça le problème. Il ne faudrait pas non plus qu'on dise, bon, notre démocratie est jeune, donc on peut tout se permettre. Je dis que ce n'est pas ça. Mais je comprends que les gens n'ayant pas cultivé au fond d'eux des habitudes de tolérance, des habitudes d'acceptation de l'autre dans sa différence par rapport à soi, que ces dérapages puissent à un certain moment arriver. Mais l'autorité doit conjuguer tous les efforts pour arrêter ces dérapages qui risquent de faire déborder le vase.
Merci Luc Mikomo, Trésor Mouindo. Vous êtes à Uvira, au sud Kivu, Uvira, où on parle souvent d'insécurité. Comment se déroule le processus électoral?
Vous l'avez bien dit, Kelly, Uvira, Fizi, presque dans beaucoup d'entités au sud Kivu, il y a encore des points d'insécurité signalés ça et là, ce qui peut être contredire les dires du politique congolais selon lequel la paix règne sur toute l'étendue du territoire. Il faut d'abord compatir avec ces candidats qui ont été attaqués, soit à Rutshuru, soit à Ituri. Et personnellement, je leur demande de tenir les routes fédérées malgré tout. L'État, chers confrères, doit assurer la sécurité de tous ceux qui établissent sur le territoire national, étranger ou national soit-il, et le contraire voudrait à croire que l'État n'est que de nom. On peut quand même nous inspirer de certaines informations vues sur certaines chaînes locales et nationales, notamment Radio Kabi, affirmé que dans certains coins du pays, les groupes armés, ils font la loi, ils font terreur et désolation malgré les efforts fournis par l'armée nationale.
Et qu'est-ce qu'il faut pour renforcer la sécurité, Trésor?
Je rentre au sud Kivu, ou dans le territoire des Fizi, où du jour au lendemain sont signalés des accrochages entre forces gouvernementales et groupes armés, des pillages dans certaines localités qui jusque maintenant seraient sous contrôle des forces négatives. On ne sait pas comment vont se passer les élections dans ces
Trésor
coins. On ne sait pas si ce sont c'est la CENI des groupes armés qui pourra publier les élections dans cette partie ou c'est la CENI nationale, on ne sait pas.
Merci Trésor Mouindo, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Alain Irung, Samuel Katiak, sous la supervision de Pelle Équipe et Lamondo. Merci à Jean-Claude Ciela qui était à la technique, au micro, Kelly Nkouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiokapi.net. Voici le programme sur la fréquence de la paix.